invité de la deuxième heure de Ces Matins du Samedi, Jean Viard, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous dans Ces Matins du Samedi. Vous êtes sociologue, directeur de recherche associé au CVPOF, le Centre de vie politique française du CNRS. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur le ou les territoires, sur la paysannerie, sur la ou les mobilités et sur le temps libre. Vous êtes l'auteur de très nombreux essais. On peut citer peut-être les deux derniers. L'avant-dernier apparu au mois de mai, L'implosion démocratique. C'était une analyse des racines qui ont conduit au mouvement des Gilets jaunes, et bien entendu nous allons y revenir. Et puis le tout nouveau est un petit opuscule en coédition L'Aube et la Fondation Jean Jaurès. Il s'intitule Un nouvel âge jeune, point d'interrogation, sous le titre Devenir adulte en société mobile. Nous en parlerons tout à l'heure. Il faut aussi préciser que donc vous êtes le directeur de ces éditions de L'Aube et que en 2017 vous vous êtes présenté aux législatives dans le Vaucluse où vous vivez sous la bannière La République en marche. Alors, effectivement, ces gilets jaunes ont appelé pour leur premier anniversaire à des mobilisations tout le week-end. À peu près 200 actions sont recensées sur tout le territoire. Mais le titre principal de la presse régionale, quand on a regardé ce matin, Jean Viard, le titre principal, celui qui revient le plus, c'est « Qu'est-ce qui reste ?» des gilets jaunes. Et c'est un peu la première question que j'ai envie de vous poser. Que reste-t-il des gilets jaunes selon vous ?
C'est compliqué. Alors, il reste une chose. Bon, on a mis des milliards en plus, notamment au niveau du SMIC, sur un certain nombre de revenus. Ça reste. Pour une partie, mais beaucoup de gilets jaunes n'étaient pas au SMIC, donc ça ne les concerne pas directement. On a fait ça. Deuxièmement, il s'est créé des solidarités, des amitiés, des affections, autour de beaucoup de ronds-points français, des gens qui sont contents de se voir, qui se revoient, et qui ont souvent été isolés. Si vous voulez, c'était comme quand on était membre d'un syndicat avant ou d'un parti politique. La dimension affective faisait partie. Une manif, c'est aussi une fête. Bon. Donc ça reste. Il y a du lien social, on va dire, qui s'est créé. Et au fond, ils ont inventé une façon de faire du politique. Ils ont créé du politique. Bon. Après, si vous voulez, c'est un mouvement qui a, on va pas discuter le nombre de gens qu'il y avait parce que personne ne sera d'accord, mais enfin, c'est quelques centaines de milliers de gens qui ont été soutenus par les autres, et encore aujourd'hui, c'est populaire comme mouvement, puisque 55% des Français disent, heureusement qu'il y a la crise des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, soyons honnêtes, le gouvernement dit la même chose. Que vous écoutiez le président de la République ou Monsieur Le Maire hier, ils disent, heureusement qu'il y a eu les Gilets jaunes, qui nous ont fait un peu rappeler qu'il y avait des gens modestes, qu'il y avait le territoire, qu'il y avait des femmes divorcées, qu'il y avait de la souffrance. Les Gilets jaunes, c'est pas les pauvres. Dans les villes, les quartiers les plus pauvres, ils y étaient pas. Les jeunes ont très peu participé. Les Gilets jaunes, c'est un groupe social particulier. C'est en gros, j'allais dire, les gens qui ont été en ascension sociale, leurs parents étaient souvent dans les banlieues, habitaient dans des HLM, ils ont souvent pu accéder à la maison individuelle, ou ils ont dû quitter la ville parce que c'était trop cher. Il y a les deux, ils sont mélangés, on peut pas dire... Et puis souvent dans des nouveaux métiers. Si vous voulez, qui sont tous les métiers, on le disait tout à l'heure, tous les métiers de la logistique, tous les métiers du soin du corps, parce qu'on est dans une société où il faut dire une chose, il y a 40% des gens qui s'occupent du corps des autres et 30% des gens qui s'occupent de la logistique. C'est-à-dire, c'est ça les deux grands. Si vous voulez, le 20e siècle a été la société du corps et de la mobilité. Le 19e était la société de l'industrie. Donc le 19e, on a développé l'industrie. Bon, nous, l'industrie, c'est 11, 12, 13% de la population. On peut discuter le pourcentage, mais c'est pas énorme. Par contre, effectivement, le soin du corps et la mobilité, c'est 70%. Donc si vous voulez, du coup, c'est normal. C'est cette partie-là, très majoritaire, de gens. Avec en plus une chose qu'il faut dire, c'est que 60% des bébés naissent en mariage. Un mariage sur deux se défait en Ile-de-France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le divorce, il fait exploser, j'allais dire, les structures économiques que pouvaient être les couples. Au sens où, quand on va acheter une maison à une heure de son travail, à deux, avec deux petits diesels pour aller bosser, et qu'à un moment on se sépare, comment on fait? Et en plus, comment on fait quand tous les jours dans les médias, on vous dit « mais non, mais il faut aller en vélo, mais non, vous n'avez rien compris ». Tout le projet de vie, de réussite sociale qu'on avait eu, d'un coup, il est nié. Parce que la société, en basculant sur un modèle métropolitain, urbain et écologique, qui est une bonne chose, mais elle a oublié qu'il y a en France 16 millions de gens qui ont une maison avec jardin et 13 millions d'appartements. Donc si vous voulez, la masse de la population, elle n'est pas dans le modèle du vélo de centre-ville. Et c'est pas un hasard si ça a démarré là-dessus.
Est-ce que tout ça ne reste pas, pour reprendre la première question que je vous posais, Jean Viard, vous disiez ce qu'il en reste, avant tout c'est le lien social, les amitiés, les solidarités que les Gilets jaunes ont su créer entre eux, et peut-être la prise de conscience conscience qu'ils ont envoyé, le message qu'ils ont envoyé au reste de la population. Mais est-ce que les racines, au fond, ce que vous décrivez là, ne restent
mais
pas
les racines,
encore aujourd'hui
un mais les racines sont toujours là, de même que Trump peut être réélu, etc.
Ferait peut-être que le mouvement pourrait reprendre
celui-là ou sous une autre forme, ou des formes syndicales traditionnelles qui vont se moderniser, je mets des guillemets, mais en imitant les formes. Le fond du problème, c'est que vous avez, des élites diplômées, métropolisées, pas forcément riches, qui ont un mode de vie, qui ont une forme de cohérence, et qui ont une identité. Vous habitez à Paris, même en Ile-de-France. Vous avez Madame Hidalgo, c'est la patronne. Vous l'aimez pas. Mais même si vous êtes pauvre, vous êtes dans une communauté. Vous êtes au téléphone avec le Mali ou avec la Bretagne. J'habite Paris. Bon, vous avez un statut. Vous habitez en dessous d'Amiens. Vous venez travailler tous les jours à Paris. Vous êtes nulle part.
Et à la Tour d'Aigle, où vous vivez, vous,
ça se passe comment? Moi, à la Tour d'Aigle, il y a beaucoup de gilets jaunes. Moi, je suis dans une zone très Front National. C'est pour ça que je m'étais présenté aux élections, parce qu'on donnait cette circonscription gagnée par le Front National. Ça, c'était quand même contraire à mon quotidien. Vivre dans une zone Front National, ça m'a contrarié. J'ai pas été élu. Le type qui a été élu, c'est un type de droite, mais le Front National l'a pas eu. Donc, si vous voulez, mais dans ces zones-là, il y a la zone Vallée du Rhône, qui était très gilet jaune et qui est très Front National. Moi, je suis au Nord-Aix, donc c'est mélangé, parce qu'il y a des gens qui sont venus là, qui en fait vont travailler avec, c'est à Marseille. Donc vous avez, en plus, il y a un lycée international à Manosque, il y a ITER, il y a des milliers d'emplois dans le nucléaire. Ceux-là sont pas gilets jaunes, hein. Mais ceux-là ont des gros revenus. Mais il y a mélange, parce qu'il y a aussi d'abord des gens du coin qui sont des gens très populaires. Et moi, je vois la dame qui fait mon ménage, mon garagiste qui vote Front National, des gens comme ça. Je veux dire, qui sont dans ces mouvements-là. Mais donc, c'est un territoire mélangé. Alors que les gilets jaunes, c'était aussi dans la diagonale du vide. Hervé Lebras l'a bien montré. Il y a une France qui se vide. Parce que les Français votent avec leurs pieds, ils déménagent. Donc faut pas toujours faire comme si c'était le capitalisme. Qui a envie d'aller, je ne vais pas donner de nom parce que je me mettrai à dos une pile d'élus locales, mais il y a des endroits où personne n'a envie d'aller. Hier j'étais avec un président de région, il m'a dit « Jean, est-ce que tu peux m'aider à faire une politique pour dire pourquoi j'ai 20 ans et je quitte pas ma région ?» Bon, donc si vous voulez, la vérité c'est que la société se reconcentre depuis 30 ans vers le sud, et vers les métropoles. Il y a les deux. Parce que la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'était 2 millions d'habitants, c'est 5 millions. Les deux régions qui peuplent le plus, c'est Bordeaux, enfin la région de Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Donc les gens vont vers le sud, les gens vont vers les métropoles, et la révolution numérique, on va prendre 2007 comme base, hein, l'invention de Twitter, la révolution numérique, on s'est dit on est tous sur la toile, on est tous égaux, et puis on s'est rendu compte que ceux qui sont dans la grande ville sont plus égaux que les autres, parce que quand ils se contactent, une heure après, ils font business. Nous, quand on est, moi, à la Tour d'Aigle, quand je contacte quelqu'un, je lui dis « on se voit la semaine prochaine ». C'est pas la même vitesse d'innovation et de création.
Jean Viard, en ce moment, plusieurs analyses, des essais paraissent sur justement l'état de cette société française. Certains, comme Jérôme Fourquet, l'analysent en termes d'archipel. Finalement, la France, c'est aujourd'hui un archipel. Vous avez parlé de l'implosion démocratique dans votre ouvrage. D'autres parlent donc à cheval avec l'archipélisation et la fragmentation. D'autres parlent, comme Jérôme Sainte-Marie, de deux blocs, d'une scission de la France en deux blocs, rejoignant peut-être l'analyse de David Goudart, le journaliste anglais, qui est l'invité de cette semaine de Guillaume Erner dans Les Matins, qui lui parle d'une division en deux clans, c'est-à-dire le titre de son ouvrage, les deux clans, entre ceux qui sont du coin, de quelque part, les sommes et les anywhere, ceux qui sont de partout et qui peuvent bouger. On dirait les perdants et les gagnants de la mondialisation. Ce serait quoi pour vous, l'archipel d'un côté ou les deux blocs?
Moi, j'ai écrit il y a 25 ans un livre qui s'appelait La société de l'archipel. Donc c'est une notion que j'ai utilisée. D'ailleurs, Pierre Vetz aussi, il avait fait un livre sur l'économie d'archipel la même année que moi. Donc cette vision archipélitique, je la porte toujours. Parce qu'il faut faire très attention. Figeac, ça marche très bien. La Vendée, ça marche très bien. C'est-à-dire que si vous voulez, il n'y a pas de lieu condamné. Il y a des lieux sans projet. C'est ça qu'il faut faire attention. Vous avez le Massif Central. Vous prenez le grand plateau là sur le sud du Massif Central. Il n'y a pas de chômage. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé une mode d'économie touristique articulée avec les vaches sur l'Aubrac, avec les salaires, avec les blondes d'Aquitaine, etc. Oui, ils ont trouvé un mode d'économie. Donc, faisons attention. Par contre, il y a des lieux sans projet. Vous voyez, j'étais à Corté il y a un mois, et sur ces questions, et les gens me disent, mais on a du mal à attirer. Je dis oui, parce que vous avez tout. Le climat, ça fait rêver la Corse, etc. Mais il n'y a pas la fiabilité. Et donc, la différence avec, par exemple, la Vendée aussi, la République les a massacrés. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas souffert des luttes révolutionnaires. Mais effectivement, on a confiance. Parce qu'il y a une forme de solidarité entre les patrons, les ouvriers, les catholiques, dans une cohésion assez réactionnaire, hein, culturellement. Mais du coup, ça développe, on a confiance, on vient, on sait qu'on peut faire business. Et donc, c'est toute la question, c'est-à-dire, on peut avoir des lieux, mais il faut une cohésion culturelle, il faut une vision stricte de où on est, Parce que le moteur, ce sont les 8 métropoles françaises. Mais je suis à une heure de la métropole. Comment je deal avec elle? Comment mes enfants vont y aller aux bonnes écoles? Comment on va avoir des places pour aller à l'OM si on habite à la Tour d'Aigle? Parce que c'est bien le match de foot entre la Tour d'Aigle et Cucuron, mais quand même, avoir un accès à l'OM, c'est pas mal. Mais il y a 60 kilomètres, comment j'y vais? Donc, il faut organiser une société horizontale. C'est là où j'aime bien l'archipel, parce que c'est pas deux blocs. C'est-à-dire qu'il y a des pauvres dans les villes, il y a des gens aisés dans les périphéries, il y a des quartiers riches à la campagne. Si vous voulez, donc, faut faire très attention. Mais en masse globale, il est clair que la ville a gardé les pauvres et les populations aisées. Et que plus la richesse numérique va augmenter, plus le loyer va augmenter dans les villes, et moins on pourra y habiter. Donc, on habitera à côté de la ville et on viendra en ville. C'est pas un modèle absurde. Mais comment on fait ça? Comment on l'anticipe dans les transports? Comment c'est confortable d'aller d'Amiens à Paris le matin quand on travaille? Il y a 250 000 personnes qui viennent des Hauts-de-France tous les jours à Paris. Qui s'en occupe? Qui les représente? Qui défend leur intérêt? Personne.
Projet, dites-vous, projet à quelle échelle? Projet territorial à échelle territoriale, projet territorial à échelle nationale. On a bientôt, Jean Viard, l'année prochaine des municipales. Le congrès des maires de France se tiendra mardi prochain. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, une étude du CEVIPOF, auquel vous êtes associé, parue jeudi, donc il y a quelques jours, montre que moins d'un maire sur deux entend se représenter aux municipales de 2020. Alors on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, c'est quand même un sur deux qui ne se représente pas, comme si le métier même de maire, donc à échelle là, très locale, n'était plus enchanté. Est-ce que l'échelle, la bonne échelle, c'est municipal, c'est territorial plus large, c'est régional, c'est national? Comment voyez-vous les choses?
Vous savez, les églises sont vides, les mairies sont vides. On est allé sur les ronds-points. Je veux dire que le lieu de la démocratie aujourd'hui, la mairie, il y a un élu, c'est là qu'on peut aller pour faire des papiers, tout ça. Mais la mairie n'est plus un lieu. Il n'y a pas 31 pôles démocratiques qui irriguent le territoire. D'ailleurs, 86% des maires sont des hommes, essentiellement retraités, généralement plus diplômés que leur population. En gros, c'est un bon job pour vieux cadres. Et ils sont dévoués, je les critique pas. Mais honnêtement, ce modèle-là, on l'a fait pour enraciner la République dans les campagnes après Jules Ferry. Et on avait un numéro du 1 spécial là-dessus, et je trouve que c'était bien. Donc ça a été très utile, après la Commune de Paris, pour lutter contre les révolutions ouvrières, on a enraciné notre République dans nos villages. Et on a dit, on va mettre 500 000 élus locaux, après on a rajouté 500 000 mecs à la SNCF, mais enfin pas sous Jules Ferry, et on s'est dit, avec ça on va tenir la France. Bon, et il se trouve effectivement que la France a changé. Il se trouve qu'on est le seul pays à avoir encore un temps de commune. Il se trouve que les gens se déplacent pour aller au collège, et que donc l'échelle de vie des gens, elle est morcelée, coupée en petits bouts. C'est pas savoir quel est le niveau, c'est quelle est l'échelle de vie des gens. L'échelle de vie des gens, on va dire, c'est la carte des collèges à peu près. Donc comment on va repenser la démocratie là-dessus? Une dernière chose, on est dans une période pré-totalitaire. Dans tous nos pays, les régimes, les pays anti-totalitaires augmentent, alors c'est pas les mêmes que dans les années 30, c'est d'autres formes. La question, elle est-ce qu'on va retrouver un commun? On est dans une société où 70% des gens disent qu'ils sont heureux dans leur vie privée, dans leur travail, dans leur quartier, mais ils sont désespérés sur le commun, désespérés sur la révolution écologique. Est-ce qu'on va savoir faire de la guerre au climat notre nouveau commun? C'est-à-dire, on va se rassembler parce qu'on a une guerre. On a raté la guerre nucléaire. C'est con, mais on pourrait arrêter. On n'en a pas eu. Tant mieux. Enfin, on a lâché deux bombes sur Hiroshima et sur Nagasaki. Mais en gros, on n'a pas eu. La guerre climatique a commencé. Est-ce qu'on va se rassembler ou s'affronter?
Et il se trouve effectivement que vous dites que 73% des gens se disent heureux peut-être dans leur vie privée, mais pas vraiment dans la vie sociale. Hôpitaux, enseignants, étudiants, pompiers, cheminots, agriculteurs. On voit bien que la situation sociale aujourd'hui est explosive. L'exécutif d'ailleurs recule sur un certain nombre de choses, craint une coalition des mécontentements le 5 décembre, journée de protestation contre la réforme des retraites. J'en viens, est-ce que le fait qu'on en soit de nouveau là, quelques mois après une grave crise sociale, celle des Gilets jaunes, et un grand débat national, qu'est-ce que ça dit de la compréhension et de l'écoute de ce gouvernement?
Ben, si vous voulez, il faut dire les choses comme elles sont. Ce gouvernement, la crise des Gilets jaunes, les questions territoriales, même, j'allais dire, la question écologique, c'est pas sa tasse de thé première. C'est un gouvernement, moi je l'ai soutenu, mais c'est pas ça, mais c'est un gouvernement gestionnaire qui essaie effectivement de mettre de l'équilibre dans un certain nombre de choses. Bon, qui a un grand projet de restructurer la société autour des écoles et des retraites. Bon, effectivement, le reste, honnêtement, on voit bien les profils des gens. Ce sont plutôt des gens qui viennent du privé, ce sont plutôt des élus qui ont des métiers, commissaires aux comptes, conseillers stratégiques, donc des gens compétents, mais qui n'ont pas cet ancrage, si vous voulez. Donc, au fond, ce qui est en train de se passer, c'est que d'un coup, ils découvrent ces réalités. Elles étaient là, à l'hôpital, c'est pas Macron qui l'a déstructuré, etc. Et en même temps, ils essayent de trouver une forme d'équilibre. Donc, ils ont, je dirais, les Gilets jaunes. Moi, si je veux dire les choses autrement, si le président Macron un jour est réélu, il faudra qu'il fasse un petit monument pour les Gilets jaunes, parce que ça l'a obligé à s'enraciner dans le territoire. et à prendre conscience des problèmes territoriaux.
Il est 8h30 sur France Culture. Jean Viard est notre invité. On vous retrouve d'ici 3-4 minutes. Merci Matteo Caranta pour cette chronique. On vous retrouve d'ici une dizaine de minutes avec l'idée culture. Jean Viard, chez nous aussi, d'une certaine façon, les étudiants peuvent faire trembler le monde. On les a vus encore cette semaine dans la rue avec des rassemblements d'étudiants en colère. Mardi, à Lyon, un jeune de 22 ans est encore entre la vie et la mort après s'être immolé par le feu devant un restaurant universitaire. Il avait laissé un message interpellant les pouvoirs publics sur la précarité étudiante. Vous, dans ce nouveau livre, un nouvel âge jeune, point d'interrogation. Vous parlez des mobilités, vous parlez du temps libre qui est le sujet de vos recherches depuis de nombreuses années. Est-ce que vous n'êtes pas en décalage là, à parler de mobilité et de temps libre quand eux parlent de précarité ?
Non, c'est vrai que ce qui s'est passé à Lyon doit tous nous interroger parce que dans l'histoire, chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, ce désespoir radical de se détruire par le feu, ça a souvent marqué des ruptures historiques. On peut penser à la Tunisie, on peut penser aux bombes, au Vietnam, bon. Donc, si vous voulez, c'est un événement important. Après, c'est un cas particulier, mais c'est en tant que système qui nous intéresse. Et il nous dit quelque chose, effectivement. Il nous dit quelque chose sur la jeunesse, j'allais dire quelque part, c'est les enfants des Gilets jaunes, quoi. Qui effectivement sont dans cette...
En tout cas, sur le mal-être.
Oui, sur le mal-être. Mais après, si vous voulez, moi, ma réflexion, c'est de dire, au fond, on est dans une société où on mélange tout. En gros, moi, quand on m'a appris la sociologie, on m'a dit, c'est quoi un adulte ? On m'a dit, un adulte, c'est quelqu'un qui gagne sa vie, c'est quelqu'un qui se reproduit. C'est la définition base, simple. Bon.
Ben, aujourd'hui, un emploi stable, un enfant.
Voilà, en gros, ben, aujourd'hui, le premier bébé, c'est 30 ans et 2 mois, et la majorité des jeunes en CDI, c'est 29 ans.
Donc, on est jeune plus longtemps, on est adulte
on est jeune
plus tard.
10 ans. La société est beaucoup plus complexe. Il y a différents chemins. Il suffit pas d'aller à l'école. Il faut apprendre des choses. Il faut apprendre à travailler. Il faut apprendre à aimer. Et on est très inégaux. Ne rêvons pas. Il y a des milieux sociaux très ouverts aux relations entre les hommes et les femmes, ou les hommes entre eux, ou les femmes entre eux, enfin, aux rapports amoureux. Il y a des parties de la société où c'est quasiment tabou. Donc, faisons très attention. Pourquoi ? Notamment parce que le grand lieu de l'amour, c'est les vacances. Il y a beaucoup de 40% des gens qui ne partent pas en vacances. Donc, si vous voulez, on est dans une société très inégalitaire sur ces temps-là. Bon. Donc, moi, ma réflexion, c'est de dire, il faut qu'on se mette à penser que, effectivement, de 16 à 26 ans, on entre dans une période longue d'apprentissage de l'âge adulte. Et donc, cette période-là...
On ne le pense pas, ça, encore.
Quoi ?
On ne le pense pas encore.
Non, le but, c'est pas d'avoir un CDI à cet âge-là. D'ailleurs, regardez les rapports amoureux. Ils sont séquentiels à cet âge-là. Moi, je suis d'une génération, on n'était pas séquentiels, on était ouverts, si je peux me permettre cette image. On était stable en couple, mais avec des aventures diverses. On n'est plus comme ça dans les jeunes générations. On a beaucoup changé. Donc, si vous voulez, c'est pour dire, je prends cet exemple, mais c'est pour dire surtout une chose. Il faut qu'on pense ce statut de la jeunesse. Il faut se dire qu'il y a différents chemins. Les 140 000 gamins qui, tous les ans, quittent l'école vers 13-14 ans. Bon, qu'est-ce qu'on en fait derrière ? On va pas forcément les remettre à l'école tout de suite. Moi, je dis, faisons-leur d'abord visiter la France 15 jours. Commençons par le service civique.
Mais c'est qui faisons ? C'est qui on ?
Mais on a créé le service civique. Eh bien, que les 15 premiers jours du service civique, ça soit la visite de la France. Qu'on fasse ça pour aller dans les CTU quand elles sont pas utilisées, pour aller dans les pensionnats, qu'on utilise ces outils. Mon maire avait créé la Fondation Vacances Ouvertes, qui était petite structure, mais qui marche très bien, justement pour ça. Disons-nous une chose simple, être français, c'est connaître la France. C'est pas, t'es né où ? Tu crois quoi ? Tu connais la France, tu la connais pas. Donc un jeune qui est français, il doit connaître la France, il doit connaître Paris, de savoir ce qu'est la Bretagne, il doit connaître Notre-Dame, mais aussi la Grande Mosquée, etc. Des choses comme ça. Il doit connaître Saclay, il doit connaître des lieux de la recherche, il doit avoir traversé l'opéra. C'est ça être français. Bon. Après, il faut se dire, ces jeunes, moi je suis pour de plus en plus le droit de vote à 16 ans. Pourquoi ? Mais parce que la révolution écologique est naturellement portée par les jeunes, parce que quand ils seront vieux, il fera beaucoup plus chaud. Moi, vous voyez, à mon âge, je dois dire que le réchauffement climatique me concerne pour mes petits-enfants, pas directement pour moi, quoi. Ça me concerne, mes petits-enfants, c'est très important, mais voilà. Donc, pourquoi ? Je dis, donnons le droit de vote à 16 ans. Considérons qu'ils ont à donner leur avis sur le réchauffement climatique. Ils ont à donner des... Si vous voulez, donc c'est toutes ces réflexions. Il faut aussi se dire, moi je pense que si vous voulez, il faut beaucoup plus avoir une logique de booster les initiatives. Vous voyez, en Belgique, par exemple, ils ont une mesure que j'aime bien. Tout jeune de plus de 25 ans peut travailler 3000 euros par an sans charge, mais déclaré. Vous faites garder votre enfant par quelqu'un qui travaille au noir, qui n'est pas assuré. Vous accepteriez jamais d'aller faire réparer votre voiture par un mec qui travaille au noir et qui n'est pas assuré. Et vous y confiez votre enfant. Et s'il y a un accident, d'abord, vous foutez en l'air la vie de l'enfant. l'avis de la personne qui le garde. Et qui est assuré? Personne. Donc on est complètement irrationnel. Il faut faire travailler nos jeunes, il faut accompagner, il faut apprendre en même temps les études, le travail, l'amour et le voyage. Il y a 4 apprentissages et on peut les faire complètement dans le désordre.
Est-ce qu'il y a un lien, Jean Viard, dans votre réflexion avec la réflexion actuelle sur la réforme des retraites? Puisqu'au moment où la France pense sa réforme des retraites et donc s'intéresse à un âge qui est plus proche de la vieillesse, disons, vous publiez une réflexion sur ce nouvel âge jeune ou sur le statut de la jeunesse. Pourquoi pas sur le statut de la vieillesse?
Mais parce qu'on pourrait le faire aussi, mais si vous voulez, il faut se dire une chose simple. En 1900, 94% des ouvriers étaient morts à 65 ans. C'est ça la grande révolution. Aujourd'hui, une dame qui prend sa
retraite... Ah oui, on vit jeune plus longtemps, on vit vieux plus longtemps aussi.
À 29 ans. Oui, mais la génération des années 20-30, mon père, eux, ils ne comptaient pas avoir une retraite très longue, ça n'existait pas. Mon père, il a eu 30 ans de retraite. Mais dans son village, des gens qui avaient 30 ans de retraite, ça n'existait pas. Donc, ils ont mis, j'allais dire, l'allongement de la vie à la fin, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Dans ma génération, on l'a mis au début, on a commencé à le mettre au début. On était à vivre en communauté, on était à Katmandou, enfin bon. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, mais la vie s'allonge. Nous, on gagne 10 ans par génération, pour dire faire image. Les gens d'avant-guerre, ils les ont mis à la fin. Ils ont acheté le camping-car à 65 ans. Nous, notre génération, souvent, on les met au début. Et donc, effectivement, on circule. Mais on circule dans les sentiments, on circule dans les convictions aussi, parce que souvent on passe par l'extrême droite, fort, mais on n'y reste pas forcément. Bon, en ce moment, il y en a beaucoup qui rentrent dans la politique par l'écologie. J'espère qu'ils vont y rester, mais c'est pas sûr non plus. Donc, si vous voulez, en gros, tous ces apprentissages ont complètement changé. En gros, on cherche à se stabiliser vers 27, 28, 30 ans. Bon, et se stabiliser séquentiellement. Un mariage sur deux se défait en Île-de-France avant 5 ans, et 60% des bébés naissent en mariage. Donc, on n'est plus dans les institutions d'avant.
Ça veut dire penser la jeunesse aujourd'hui, c'est penser la vieillesse de demain?
Ah ben, bien sûr, ça veut dire que
ça changerait quoi, en fait, de reconnaître un nouvel âge jeune?
Mais ça, par exemple, quand je dis, il faut leur donner des droits. On peut leur donner le droit de vote à 16 ans. On peut leur donner le droit de travailler pour 3 ou 5 000 euros sans charge sociale. On peut leur donner... Regardez, il y a des sociétés, notamment dans la distribution, qui ont des contrats de 5 ans, des contrats master pour les jeunes. Ils travaillent 2 jours par semaine, 1 mois par an, et ils ont un fixe sur 5 ans. Bon, et c'est on pourrait dire, ceux qui font ce genre de choses, ils ont droit à une CTU. C'est-à-dire que nous, on sait très bien que s'ils travaillent plus que 2 jours, ils ne peuvent plus faire d'études. Mais un jeune qui travaille un peu, c'est un plus, on le voit bien dans les résultats scolaires. Un jeune qui travaille trop, il échoue. Un jeune qui travaille jamais, il réussit pas non plus forcément. L'idéal, c'est un jeune qui, de temps en temps, travaille. Favorisons ce genre de pratique sociale.
Mais il y en a de plus en plus qui, de temps en temps, travaillent.
Mais oui, mais c'est
et,
pas...
et ça ne s'appelle pas la liberté aujourd'hui. Mais ça s'appelle justement la précarité. Beaucoup en souffrent.
Mais le fait de travailler...
Vous prenez l'exemple dans Un nouvel âge jeune de Deliveroo.
Tout à fait, parce que j'avais vu comment ça marchait.
Votre ouvrage. Les enquêtes sur Deliveroo ne sont pas aussi heureuses et enthousiasmantes
non,
que vous l'êtes,
je dis
Jean-Yard.
Pas que c'est pas
en tous les cas,
Deliveroo,
les jeunes se plaignent plutôt de conditions de travail extrêmement difficiles.
La plupart des gens qui travaillent pour eux sont des gens qui travaillent quelques mois et qui gagne à peu près 200 euros par semaine. Donc, comme complément accidentel et ponctuel, soit pour s'acheter un Mac, soit parce qu'on est au chômage, soit parce qu'on a perdu sa bourse et qu'il faut qu'on mange, comme truc ponctuel, c'est intéressant. Si vous me dites c'est un métier à vie, tous ces métiers sans statut, sans protection sociale, je vous réponds non. Et d'ailleurs, Deliveroo, je dis, le problème, c'est qu'un jeune chez Deliveroo devrait être suivi par l'assistance sociale de l'école pour voir comment après on le reprend ailleurs. Si c'est des séquences, c'est vivable. Si on va vers une société dérégulée, sans droits sociaux, on voit des messieurs de 50 ans qui pédalent pour porter des pizzas à des gens qui sont dans leur fauteuil, c'est un scandale. Mais ne mélangeons pas le démarrage des jeunes dans la vie et puis effectivement le statut des gens qui s'installent. Ce sont deux choses de plus en plus différentes.
Vous écrivez « La place des jeunes sur le marché du travail doit être pensée à travers une nouvelle culture de l'intermittence », reprenant les mots d'Anne Nuxel qui travaille sur les jeunes.
Bien sûr, qui est dans mon labo aussi. Mais...
Ça ne veut pas dire la discontinuité donc comme une liberté. La culture de l'intermittence, c'est dire cet âge-là est fait de vie intermittente, de discontinuité, mais ça ne doit pas être une donnée
Mais de plus en
vie,
plus.
Disons.
Voyez par exemple, il y a 500 000 jeunes qui sont dans les centres de formation. C'est la meilleure année. Mais il y en a 230 000 qui sont en train de vendre du hache dans les quartiers. Bon, ben peut-être que cela, faut réfléchir à ce qu'on en fait après. Parce qu'ils apprennent le commerce, la hiérarchie, l'organisation, ils apprennent des choses. Bon, je préférerais qu'ils fassent autre chose que comme activité, mais tant qu'on n'aura pas décidé d'une réflexion profonde sur cet outil de formation des jeunes, par exemple, que peut être la drogue, excusez-moi, je fais exprès un peu de provocation, mais j'ai mis des guillemets.
Oui, c'est une provocation.
Mais non, mais ces 230 000 jeunes, ben, ils apprennent des choses. Et puis, après, ils feront autre chose dans la société. Donc, si vous voulez, comment j'avais dit au patron quand j'étais élu dans les quartiers nord de Marseille, effectivement, considérez que là, les dealers, ils ont la bosse du commerce, mettez-les dans vos entreprises. entreprises. Et donc, c'est un peu de la problème. Pas uniquement. C'est-à-dire, il faut regarder la société telle qu'elle est. Moi, je suis pour la légalisation du hachis, je m'en suis jamais caché, parce que je ne vois pas comment on peut avoir des quartiers pauvres pleins de pognon. C'est ingérable. Et que, en plus, ça est en train de se faire dans le monde entier. Mais, au-delà de ça, la question, si vous voulez, c'est de regarder ces différentes jeunesses, comment elles sont les unes avec les autres. On a fait les écoles de la deuxième chance pour des jeunes qui ont décroché. C'est très bien. Moi, j'ai suivi des jeunes qui, en gros, travaillaient 6 mois au SMIC et passaient 6 mois au Mexique, qui s'étaient rendu compte que 400 euros, qui est le chômage à peu près du SMIC, au Mexique, c'est un salaire de prof de fac. C'était génial.
Donc, bah, c'est génial, on n'utilise pas l'argent du chômage pour aller au Mexique.
Donc, il faut dire qu'on
leur... 6 mois.
Pourquoi pas? Il y en a des milliers qui le font.
Parce qu'aujourd'hui, en
formation.
France, ils ont du mal à se loger, ils ont du mal à manger.
Non, mais je veux dire que la formation des jeunes doit intégrer. Alors, peut-être qu'il faudrait pas appeler ça chômage. On pourrait dire, bon, il va avoir une bourse voyage. On peut trouver les choses pour qu'on ne pas dire, on ne va pas payer le Club Med aux chômeurs. Je suis assez d'accord. On me l'a dit ça plein de fois sur Internet. Mais considérez, le voyage en France à 16 ans pour tous les jeunes de 15 jours, c'est un outil d'intégration absolument majeur. Le fait de dire, effectivement, les jeunes, ils vont être en alternance, études, travail, chômage, voyage, etc. Comment on met les facilités financières pour que ça soit possible? On peut très bien décider qu'un jeune qui a un projet de voyage de 6 mois dans le monde, il ait une bourse de 3000 euros. Je veux dire, il va plus apprendre là que s'il reprend une formation immédiatement quand il vient de quitter l'école parce qu'il en avait marre d'assister. Il retournera peut-être à l'école après.
Qu'est-ce qui caractérise la jeunesse d'aujourd'hui par rapport à celle d'il y a 40 ans, même peut-être 20 ans.
Depuis toujours, les vieux trouvent que les jeunes sont des jeunes cons. Et vous prenez des textes sur les Grecs. Mais non, moi je les adore, ils me font rire. Mais c'est vrai qu'ils ne réagissent pas toujours comme moi. Mais je pense, si vous voulez, notamment ce qui se passe dans la jeunesse écologique est tout à fait intéressante. Ce qui se passe dans les jeunesses en termes de musique, dans les jeunesses des quartiers. Moi je suis marseillais, enfin j'habite à la campagne, mais je suis très marseillais, j'ai été élu à Marseille. Là, il y a une créativité énorme. Le problème, c'est que les jeunes, il y a 30 ans, on disait toujours ils veulent être fonctionnaires. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien, un des gros problèmes qu'on a dans la fonction publique, c'est qu'il n'y a plus assez de jeunes, notamment pour l'enseignement. Enfin, peut-être aussi que si on ouvrait un peu l'enseignement à des enfants issus des quartiers, et si on avait plus d'enseignants qui, dont les grands-parents venaient du Mali, d'Algérie ou de Tunisie, et si dans une école où les deux tiers des enfants sont d'origine immigrée, et on avait aussi des profs d'origine immigrée, peut-être qu'il y aurait il y aurait plus de postes. Mais, donc, si vous voulez, là-dessus, on est dans ces transformations.
Ça me dit pas comment vous la caractérisez aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans.
Elle est beaucoup plus autonome, elle n'a pas forcément envie d'un statut stable. Elle rêve plus d'une bourse pour créer une start-up que d'avoir...
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout le monde n'a pas d'une bourse pour créer une start-up.
Non, mais pour créer quelque chose. Je veux dire, on est dans une société de l'autonomie de l'individu. Le problème, c'est de lui donner les moyens de cette autonomie et de le protéger. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la CFDT de dire le sac à dos social, j'aime beaucoup. J'ai besoin de protection, mais ces protections, je les emmène avec moi. Je change de partenaire érotique, je déménage, je change de job, je me casse la gueule. Qui me retend la main? Mais si vous voulez, la génération d'avant, on s'est bâti sur 3 stabilités. Le mariage, la propriété, le CDI. Quand on avait les 3, ou le statut de fonctionnaire, bon, la vie n'était pas amusante tous les jours, mais enfin, on avait l'essentiel. Nous, on est bâti sur la discontinuité. Et pour une raison très simple, vous savez, on a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre, et on ne fait pas 20 ans la même chose. Plus la vie est longue, plus vous pouvez retenter votre chance à tout âge. Regardez le nombre de gens qui prennent leur retraite et qui divorcent. C'est pour prendre que ce chiffre-là. Regardez, on fait 4000 fois l'amour pour faire 2 enfants. Donc tout ça a complètement
Sortez
changé. Mais parce que c'est passionnant, parce que c'était 1000 fois pour en faire 6 avant 14.
Mais comment
la société
vous calculez
évolue à toute vitesse et on voudrait la faire rentrer dans les cadres du passé. Ne soyons pas tous zémouriens.
Allez, devenir adulte en société mobile, c'est donc votre petit livre, un nouvel La Jeune Point d'Interrogation.